Voilà, et après, il y a encore des gens qui vont nous dire « Non, non, mais LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, ça n'a rien à voir avec le LSD, vous pensez bien, on ne l'a pas fait exprès. »
Les Beatles ont juré.
Ça n'avait rien à voir. C'est ça, bien sûr. Eh bien, on les croit. Mais même si on les croit, je vais quand même je vais faire un petit aparté ou une digression, on va dire, sur le LSD. Je me suis interrogé ce matin, je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire finalement, LSD ?» Alors, LSD, c'est de l'allemand, ça veut dire « Laser Säure Diethylamide ». Et je vais vous conter une petite anecdote à propos du LSD. Le LSD a été synthétisé pour la première fois en 1938 par les chimistes suisses Arthur Stoll et Albert Hofmann, ce dernier travaillant alors dans le laboratoire dirigé par le professeur Arthur Stoll. Donc c'est une entreprise pharmaceutique qui s'appelait Sandoz, tout le monde a bien compris, devenu Novartis en 1996. Les deux chimistes travaillent sur les applications thérapeutiques possibles de l'ergot de seigle, donc c'est un composé qui est mi-synthétique et pas complètement synthétique. Et ils en sont à leur 25e expérimentation, parce que le LSD est donc le 25e dérivé de l'ergot de seigle qu'ils étudient, d'où le nom LSD-25. Ils espèrent obtenir un analeptique, c'est-à-dire un stimulant du système respiratoire, mais lors des expérimentations, on note seulement une activité utéro-constrictive. La molécule n'éveille aucun intérêt, les expérimentations sont arrêtées. Malgré le classement sans suite des études sur le LSD, Stoll et Hofmann reviennent sur leur recherche en 1943. Le 16 avril, ils expérimentent accidentellement les effets psychotropes de la molécule lors de la phase finale de la synthèse. Hofmann décide alors de s'auto-expérimenter la substance le 19 avril 1943 par une prise de 250 microgrammes par voie orale. Lors de cette expérience, anecdote voudrait qu'il soit rentré chez lui à bicyclette du fait de la guerre. On est en 43, même en Suisse. Hein.
Pareil qu'il ait perdu les sacoches.
Les voitures sont réquisitionnées. Cette course est aussi connue sous le nom de Bicycle Ride. Et là, Bicycle Ride, pour ceux qui ont une petite culture de Queen.
C'est Queen, oui.
I want to ride my bicycle. Je pense qu'il y a un rapport avec ça. Et que ce croyant empoisonné, il ait consommé du lait quand c'est arrivé chez lui. Dans son autobiographie, Albert Hofmann raconte sa première prise volontaire. Et il dit ce jour-là, le chimiste balois ingère cette substance qu'il a synthétisée dans son laboratoire, mais dont il ignore complètement les effets. Il enfourche donc son vélo pour regagner son domicile. Il vient d'embarquer pour ce qu'on a appelé le premier trip de l'histoire du LSD.
Excellent.
Et qui ouvre la voie à de nombreuses autres expérimentations psychédéliques et scientifiques. Et là, il dit, j'avais du mal à parler de manière intelligible. J'ai demandé à ma laborantine de m'escorter jusque chez moi. Sur le chemin, mon état a commencé à prendre des proportions inquiétantes. Tout ce qui entrait dans mon champ de vision tremblait et était déformé comme dans un miroir incurvé. J'avais l'impression de ne pas avancer. Pourtant, la laborantine m'a raconté plus tard que nous avions voyagé très rapidement. Voilà, donc c'était un aparté un petit peu long sur le LSD, mais je trouvais amusant. On va revenir à Marie. Marie, donc, qui fait le métier d'écrivain public, ça t'est venu comment ?
Alors, ça m'est venu comment ? Très simplement, j'ai fait des études de lettres classiques d'abord, voilà, à l'université. Hein. Mm-hmm. Après, j'ai suivi une formation à l'école de bibliothécaire documentaliste de l'Institut catholique de Paris. Donc, je suis devenue gestionnaire en information.
Ouais.
Et j'ai travaillé plusieurs années dans un centre de documentation spécialisé dans le théâtre contemporain à Paris. Alors à ce moment-là, j'aimais beaucoup mon métier, hein. Vraiment, ça me passionnait. Je conseillais des comédiens, des dramaturges, je leur conseillais des pièces à monter, à lire, à jouer. Mais il me manquait quand même cette dimension de l'écriture que je n'avais plus. Et déjà à l'époque, j'aimais beaucoup retranscrire les besoins, les émotions des gens qui venaient me voir. Et on me demandait souvent pourquoi je n'écrivais pas moi-même. Mm-hmm. Bon, alors c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête. Et quand j'ai eu ma première fille en 2009, j'ai décidé de changer de cap professionnel. Voilà, je voulais quelque chose un métier qui me laisse aussi plus libre, quelque chose de plus flexible.
Qui permettait de passer plus de temps avec tes enfants, justement
Passer plus de temps avec l'idée de pouvoir m'organiser comme je le souhaite, de pouvoir gérer mes plannings, d'accord, de ne plus dépendre de personne. Donc voilà. Et le métier d'écrivain public conjuguait bien tous ces aspects-là d'indépendance, liberté et écriture, rencontre. Je me suis dit, tiens, allons-y, pourquoi pas. Et j'habitais à Toulouse à l'époque, et dans cette ville de Toulouse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes où c'est le cas d'ailleurs, une écrivain publique avait pignon sur rue.
Allons bon.
Oui.
Qu'est-ce que tu appelles pignon sur rue d'ailleurs?
Vraiment, une boutique qui s'appelait La Boutique des Mots.
Et les gens venaient la voir.
Et les gens venaient la voir, et je trouvais ça extraordinaire.
Elle travaillait en direct, elle écrivait comme ça en live, j'allais dire, oui. Immédiatement, oui. Ce que les gens voulaient.
Soit immédiatement, soit voilà, elle faisait revenir les gens un petit peu plus tard selon la demande. Mais c'était la première fois que je voyais un véritable cabinet d'écrivains public dont on pouvait pousser la porte.
Ça t'a inspiré.
Ça m'a inspiré. Et du coup, je suis devenue un petit peu sa stagiaire au départ. Ouais. J'ai fait des remplacements pour elle. Quand elle voulait partir un petit peu en congé, moi, je tenais la boutique. Et je me suis aperçue en faisant ça que ça me correspondait vraiment très très bien. J'aimais beaucoup ce service.
D'accord.
J'ai eu des expériences très émouvantes dans cette boutique.
Tu peux nous en citer une, par exemple ?
Oui, j'ai eu cette dame qui est venue me voir, qui était très triste parce que ses petits-enfants habitaient loin, dans un pays étranger, et elle était fâchée avec sa fille. Et elle avait envie de renouer avec sa fille par le biais de ses petits-enfants.
D'accord.
Donc elle m'a demandé, sur ses indications, de rédiger un courrier pour ses petits-enfants. Donc elle m'a donné plein de détails sur elle, sur sa vie, sur ce qu'elle savait de ses petits-enfants, sur ce qu'elle avait envie de faire avec eux, et j'ai rédigé cette lettre pour elle. Et voilà, elle a pleuré, c'était très beau.
Mais la lettre du coup est partie aux petits-enfants.
Oui.
Et les petits-enfants ont eux-mêmes fait passer le message à leur mère pour que justement le lien mère-fille, enfin ou grand-mère, mère-petits-enfants se rétablisse. Ça a servi à ça au bout du compte?
Alors j'ai pas su toute l'histoire jusqu'au bout, mais je sais qu'elle a pu renouer avec ses petits-enfants, en tout cas
très
partir de ce courrier.
Ouais. Très très belle histoire.
Bon, super. Et ce métier d'écrivain public, plus généralement, et on l'a dit tout à l'heure, c'est un vieux métier, et tu as une jolie formule pour décrire le truc, tu as dit, c'est une
de tes consoeurs.
Un vieux métier d'avenir.
Ah, c'est sympa ça.
Alors, en quoi c'est un métier d'avenir ?
C'est un métier d'avenir, bon, un vieux métier, parce que c'est un métier qui existe quasiment depuis que l'écriture existe, hein, puisque il a toujours fallu des gens qui maîtrisent l'écrit. Pour les autres, hein, parce que bon, au départ, c'était la fonction de l'écriture était plutôt administrative, juridique, commerciale. Bon, après, ce sont plutôt les pouvoirs politiques et religieux qui se sont occupés de retranscrire tout ce qui était écrit. Bon, après, je peux vous faire l'historique, si vous voulez, du métier d'écrivain public. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, voilà. Il a une histoire à travers le Moyen-Âge. Après, surtout au XIVe siècle, que le métier a vraiment pris de l'ampleur.
Oui.
Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez de nom, qui s'appelle Nicolas Flamel.
Oui, Nicolas Flamel. Alors, il y a une rue Nicolas Flamel à Paris, je crois.
Absolument. Et on peut visiter sa maison, d'ailleurs. Et Nicolas Flamel, alors, malheureusement, l'histoire n'a pas retenu en premier lieu son métier. Hein. On ne le connaît pas comme écrivain public, on le connaît comme alchimiste.
D'accord.
Parce que c'est lui qui aurait inventé la pierre philosophale qui apporte l'éternelle jeunesse. Il aurait d'ailleurs 665 ans, je crois.
Je vais aller visiter sa maison.
Voilà.
Oui, je pense qu'il est plus que temps, Yves.
Mais voilà, Nicolas Flamel, à la base, était écrivain public.
Ah,
il avait un cabinet d'écrivain public. Donc voilà, ça, c'est le Moyen-Âge. Après, au XVIIe, alors, c'était des familles aisées, surtout, qui faisaient appel à des écrivains publics pour écrire des biographies familiales, surtout. Voilà, ça, c'est ce qui intéressait beaucoup les gens à l'époque. Bon, après, il y a eu la Révolution, donc là, ça a un petit peu porté un coup d'arrêt au métier, hein, tous les troubles sociaux de l'époque. Puis, voilà, après 19e siècle, Jules Ferry, l'instruction laïque, publique.
Merci Jules.
Et oui, là aussi, le métier aurait pu s'arrêter, puisque les gens étaient de plus en plus lettrés, il y avait de moins en moins de besoins, en tout cas pour des choses rédactionnelles simples. Mais non, alors il se trouve qu'à partir du 20e siècle, le métier a tout simplement changé d'identité, de forme. Hein.
Oui.
On est passé de la rédaction pure, de courrier très basique, à des choses un peu plus pointues au niveau rédactionnel, qui fait que les gens qui nous contactent aujourd'hui, ce ne sont pas du tout des illettrés. Ce sont des gens qui soit ne veulent pas, soit ne peuvent pas.
Ou n'ont pas le temps.
N'ont pas le temps.
Ouais.
Ou n'ont pas la possibilité de rédiger eux-mêmes certaines choses assez pointues.
D'accord. On va revenir à ce que tu fais aujourd'hui au métier d'écrivain public. Avant de reparler avec Marie de ce que tu fais aujourd'hui et des sujets que tu abordes, une autre petite pause musicale avec notre ami Eric Clapton et on va rester dans le domaine, comment dirais-je ? On vous laisse écouter ?